Là-dessus, on va continuer à poser des questions sur cette tragédie. On en parle avec Xavier Tittelmann, qui est un ancien aviateur militaire, expert aéronautique pour le groupe de consultation français CGI. Il décortique la tragédie aérienne iranienne sur son compte Twitter, où il explique depuis des années, là, de toute façon, les mystères de l'aviation civile mondiale. Je mets « mystère » entre guillemets, évidemment, vous comprenez. Ainsi que sur son blog personnel, peuravion.fr. On le joint en France. Monsieur Tittelmann, bonjour.
Bonsoir, Patrick.
Dites-moi, vous avez suivi le point de presse du premier ministre Justin Trudeau qui demande des comptes à l'Iran. Une première réaction?
À juste titre. Alors, ça confirme évidemment tout ce qu'on avait pu déjà analyser. Dès le premier soir, enfin, on n'a pas les mêmes horaires ici, mais on avait ces informations, on avait les éléments qui sont envoyés par l'avion qui ont cessé. L'avion a cessé d'émettre instantanément. Même une panne moteur, même une panne électrique totale ne provoque pas un tel arrêt instantané de tous les systèmes, alors qu'une fraction de seconde plus tôt, l'avion montait, prenait de l'altitude, prenait de la vitesse tout à fait normalement. Ça, c'était le premier élément. Ensuite, on a eu très rapidement une première vidéo dans laquelle on avait un engin en flammes qui était en train de descendre et qui s'écrase au sol avec une grosse explosion. Ça confirmait, et ces deux éléments-là faisaient que déjà, il y a 36 heures, je disais, la thèse du missile est quand même privilégiée. Et là, on a eu deux éléments en dehors de maintenant tout ce qui est disponible par les services de renseignement et qui évidemment vont être confirmés plus tard. On a eu ensuite une deuxième vidéo qui est sortie maintenant il y a quelques heures, mais dans laquelle on a clairement le missile qui monte et qui touche l'avion. On a la détonation qui arrive quelques secondes plus tard. Donc là, maintenant, on n'a pas seulement un avion en flammes, on a le missile qui touche l'avion. Et on a retrouvé au sol des photos, on a analysé les débris, on voit qu'il y a des impacts, ce qu'on appelle le shrapnel, c'est-à-dire dans un missile militaire anti-aérien, vous avez une charge explosive autour de laquelle on va mettre des morceaux de métal, comme si c'était des boulons. Et quand ça explose, comme ça, il n'y a pas simplement le souffle qui va détruire ce qu'il y a autour, mais ça va aussi projeter des débris dans tous les sens, et on voit très clairement des débris sur les ailes qui ont, en gros, les ailes sont trouées, il y a le fuselage qui est troué, il n'y a plus aucun doute. Et le dernier élément qui, aujourd'hui, par contre, n'est pas confirmé, c'est qu'on a trouvé au sol une tête chercheuse d'un missile SA-15. On a réussi à identifier à quel type de missile ça appartenait, et ça, c'était déjà il y a plus de 24 heures.
OK, dites-moi, Xavier Tittelmann, on va reculer juste un peu. On va parler justement de la question de la cessation de la transmission des données de l'avion, par ce qu'on appelle le transpondeur. Ce que vous me dites, c'est que normalement, même dans un crash catastrophique, le transpondeur va continuer à fonctionner jusqu'au moment de l'impact. Et là, le transpondeur a cessé de fonctionner en vol, c'est ça?
Exactement. Les rares cas où on a un transpondeur qui s'arrête, eh bien, c'est simple, c'est le MH17, donc l'avion qui avait été abattu dans l'est de l'Ukraine par un missile Buk russe. Mais même si on imagine une panne de tous les moteurs, un incendie global, un problème majeur électrique dans le cockpit, l'avion va continuer à envoyer des messages de bon fonctionnement ou de mauvais fonctionnement. L'avion va continuer à envoyer des informations sur sa position parce qu'il y a même des batteries autonomes dans certains systèmes. C'est alimenté par différents circuits électriques. Donc tout ça, ça ne s'arrête pas instantanément. Et encore une fois, quelle que soit la panne qu'on va envisager, on a des redondances, on a des systèmes qui vont continuer à fonctionner. Et une panne dans le cockpit ne met pas le feu à l'extérieur de l'avion. Donc si on part d'un système qui a un feu à l'extérieur, par exemple un réacteur qui serait en feu, c'est pas pour ça que dans le cockpit, les systèmes vont arrêter de fonctionner. Donc cette coordination de problèmes en même temps était vraiment anormale.
Xavier Tittelmann, vous avez œuvré dans l'aviation militaire française. Dites-moi, sachant ce qu'on sait de la rivalité entre les Américains et les Iraniens, sachant ce qu'on sait de la capacité de surveillance des États-Unis, est-ce qu'on peut penser que les Américains, que ce soit par surveillance radar, surveillance satellite, savaient dès les premières minutes, dès les premières heures après la tragédie, que cet avion-là n'était pas tombé par accident?
Alors, les systèmes satellites qui sont utilisés par les services de renseignement, à l'origine, c'est pour détecter un départ de feu, c'est-à-dire un départ d'un missile, c'est-à-dire beaucoup de chaleur. Donc, c'était en gros des capteurs infrarouges. Là, si déjà il y a 36 heures maintenant, ils ont su qu'il y avait deux départs de feu très chauds au même endroit où il y a eu l'accident. Évidemment, ça va très très vite dans les services de renseignement. Ils savent qu'il y a deux missiles qui sortent, ils savent qu'il y a un avion civil qui est abattu derrière. Eux, ils avaient déjà leur conclusion. Voilà, mais ça, ces éléments-là, par contre, ils auront, à part leur parole, il n'y aura peut-être pas de rapport officiel pour donner ces informations. parce que ça dévoilerait aussi des capacités de renseignement militaire. Et ça, ils ne sont pas friands. On l'a vu avec l'Ukraine, le MH17. Les Américains avaient fait la même annonce. On a vu le tir du missile, mais ils n'ont jamais donné l'information, la preuve. Donc, voilà, eux, ils ont leur certitude, mais les éléments disponibles, encore une fois, en source ouverte sur les médias sociaux sont tellement nombreux aujourd'hui que le doute n'existait même pas avant que les renseignements le confirment.
OK, Monsieur Tittleman, dites-moi, quelles sont les obligations de l'Iran par rapport au droit international, par rapport aux conventions internationales pour le partage des informations qui sont dans les boîtes noires?
Alors, théoriquement, ils ont l'obligation sous un mois de faire un rapport initial dans lequel ils vont donner tout ce qu'ils auront réussi à recueillir à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est systématique, qui est obligatoire, mais j'ai envie de dire, si les Iraniens n'ont pas envie de respecter la réglementation internationale, eh ben c'est un petit peu malheureux, mais on n'aura pas trop le choix. Et c'est exactement ce qu'on a subi en France, il y a 4 ans, avec le vol MS-802 qui décollait de Paris vers l'Égypte. L'avion, les Égyptiens, s'est abîmé en mer, dans la mer Méditerranée. L'Égypte a dit c'est parce qu'il y avait une bombe à Paris. Il se trouve que par d'autres informations, on sait que l'avion a envoyé des messages de dysfonctionnement et qu'il a continué à voler en ligne droite pendant 8 minutes, donc on sait que ce n'était pas une bombe. Mais les Égyptiens n'ont jamais voulu donner les informations qui étaient dans la boîte noire. Et 3 ans plus tard, ils n'ont toujours pas donné une seule information sur cette enquête et ils campent sur leur position. Donc si aujourd'hui les Iraniens ne veulent pas être transparents, ils peuvent tout à fait empêcher parce qu'ils ont envie de ne pas respecter le droit international.
Donc, il n'y a pas, ils ont ces obligations-là, mais il faut mettre « obligation » entre guillemets, si je comprends bien. Là.
Exactement. S'ils veulent ne pas respecter, je ne suis pas sûr qu'on fasse une guerre pour ça.
Xavier Tittleman, merci beaucoup. C'était très éclairant.
Bonne soirée.
Monsieur Tittleman est expert en aéronautique pour CGI Consulting. En France, c'est un ancien aviateur militaire. Je vous rappelle que sur son blog, qui est très intéressant, peuravion.fr, ainsi que sur son compte Twitter, il démystifie ce milieu fascinant qui est l'aviation et qui parfois peut prendre des tournures tragiques, comme on a vu en Iran il y a quelques jours. Je vous le disais, c'est la grosse histoire du jour, la possibilité que l'Iran ait abattu ce Boeing 737 par erreur, par un missile sol-air qui était destiné potentiellement aux ennemis de l'Iran, notamment les Américains. On sait qu'au moment où le Boeing 737 est disparu des écrans radars, ben, la tension était au maximum entre les États-Unis et l'Iran. Donc, on va reparler de cet événement-là pendant l'émission. 16h10, on va parler avec ce grand amant de l'aviation civile qui est notre ami Paul Hood. Paul va être avec nous pendant quelques minutes là, pour parler de l'historique de ces accidents où des militaires ont abattu par erreur des avions civils comme ça de façon tragique. Et c'est ce qui semble s'être passé comme ça en Iran il y a 36 heures. Il est 15h22, de retour avec la chronique de Philippe Quentin.